Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mirage du pétrole, un texte de François Brousseau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. L'intervention américaine au Venezuela et la prétendue mainmise de Washington sur le pouvoir à Caracas, alors même que le chavisme sans Nicolas Maduro reste en place, est fondée sur des illusions. Des mirages et des fantasmes en bonne partie liés à la fascination enivrante pour l'or noir. Le pétrole dans cette affaire est la drogue qui alimente les illusions de grandeur des États-Unis à l'heure de leur déclin géopolitique et économique. Le mirage est triple. D'abord, on croit faussement, en tout cas Trump le naïf croit faussement, à l'existence de fabuleuses réserves de pétrole facilement accessibles au Venezuela. C'est le fameux chiffre de 300 milliards de barils de réserves prouvées, selon l'expression utilisée, qui dépasserait le 50 milliards, celle de l'Arabie saoudite, pour en faire des supposés plus grande réserve du monde. C'est au mieux une extrapolation hypothétique, au pire un mensonge. Entre 2010 et 2013, alors qu'Hugo Chavez était encore vivant et emmené large au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les statistiques officielles de l'organisation ont soudain vu les évaluations pour le Venezuela tripler, passant en gros de 100 à 300 milliards de barils sur un claquement de doigts. Cette évaluation ne résultait pas de grandes découvertes géologiques ni de percées technologiques qui auraient permis de nouvelles exploitations. On avait simplement changé l'évaluation officielle de certains gisements connus dans le bassin de l'Orénoque pour les élever au niveau dit « exploitable ». Opération politique et opportuniste. Alors même que, dans les faits, l'industrie nationale pétrolière s'enlisait, que les équipements se dégradaient gravement et que la production annuelle s'effondrait. Production quotidienne du Venezuela en 1997, 3,5 millions de barils. En 2020, 500 000 barils. Pour comparaison, l'Arabie saoudite produit environ 10 millions de barils. Donald Trump a convoqué le 9 janvier les dirigeants de compagnies pétrolières pour les inciter à investir au Venezuela, leur disant en substance, à la fois impérialiste et mafieux, « J'ai défoncé la porte, leur pétrole est à nous, servez-vous. » Mais attention, a ajouté le boss, « Vous traitez directement avec nous, nous ne voulons pas que vous traitiez avec le Venezuela. » Selon les comptes rendus de cette réunion, le sentiment général était plutôt au scepticisme, et ce ne sera pas la ruée. Les spécialistes savent que ce pétrole lourd et visqueux, véritable mélasse, est difficile à traiter et que les infrastructures là-bas sont désuètes, voire ruinées. Ils ont aussi lu l'étude du cabinet Rystad Energy, évaluant les réserves exploitables du pays à 30 milliards de barils, 10 fois moins que le chiffre officiel, et les investissements requis à plus de 100 milliards de dollars. Deuxième mirage. On veut faire croire que conditions politiques, internes au Venezuela, commerciales, marché mondial et géopolitiques sont bonnes, alors qu'elles ne le sont pas. L'agression du 3 janvier était aussi tactiquement réussie qu'elle est stratégiquement indigente. Trump croit qu'une décapitation et un simple coup de pied dans la fourmilière peuvent tout changer. De façon caractéristique, sans avoir la moindre idée de ce qui va suivre, il dit « On va voir ce qui va se passer » et jette des promesses sans rapport avec la réalité, à l'horizon de quelques semaines ou de quelques mois. Le Venezuela est un pays politiquement, psychologiquement et socialement brisé. Son économie, ses infrastructures, la démocratie et l'état de droit sont en ruine. Plus du quart de sa population a fui à l'étranger, sans la guerre. Pensez que l'électrochoc de la capture et de l'exfiltration du président d'un état souverain, qui était aussi, c'est vrai, un chef mafieux haï par la population, puisse, comme par miracle, remettre le Venezuela sur les rails est une illusion. Trump, en bon mafieux lui-même, croit qu'il peut conclure une entente de capot à capot avec celle qui a remplacé Maduro, mais avec le gros bout du bâton pour lui. Mais l'opposition démocratique qui a gagné les élections en 2024 et que la Maison-Blanche rejette aujourd'hui comme un rebut se sent trahie. La clique au pouvoir est toujours là. La population ne voit rien de bon pour elle dans ces tractations entre bandits par-dessus sa tête. Le potentiel de violence entre l'État et la population ou entre factions au pouvoir. Delcy Rodriguez a-t-elle trahi Maduro est élevé. Une abdication de souveraineté en échange d'un boom économique, ce n'est même pas dans les cartes. Le marché mondial du pétrole n'aurait rien à faire en 2026, 2027 ou 2028 d'un hypothétique sursaut de production qui viendrait du Venezuela. Au-delà des considérations morales sur la brutalité impérialiste de l'épisode, il n'y a pas là-dedans le moindre plan de relance, politique ou économique, pour ce malheureux pays. Enfin, dernière illusion et non la moindre, on parie sur le pétrole, alors que le pétrole ne représente pas l'avenir. Il est vrai que le pic pétrolier, suivi d'un déclin précipité, annoncé depuis 40 ans, tarde toujours à se concrétiser, et que la demande à court et moyen terme demeure élevée, avec un marché bien approvisionné. Miser sur le pétrole, à l'heure du nécessaire changement énergétique, peut paraître absurde, même s'il y a un débat légitime entre la nécessité immédiate, réchauffement climatique, les moyens de la transition et les objectifs à long terme. Mais ce n'est pas la mélasse pétrolière de l'Orénoque, sous tutelle américaine, qui va permettre aux Vénézuéliens de se tirer du fond du baril. C'était « Le mirage du pétrole », un texte de François Brousseau publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Des snowbirds québécois mettent le cap sur l'Espagne. Un texte de Romain Chauvet, paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir. Ils aimaient la Floride pour son soleil, ses parcs et ses plages, ils la quittent pour leurs convictions politiques. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, de nombreux snowbirds québécois ont rayé les États-Unis de leur carte hivernale pour manifester leur désaccord profond avec ces politiques. Reportage dans la péninsule ibérique. On est vraiment tombé en amour avec l'Espagne, s'extasie d'entrée de jeu au Devoir Pauline Gervais. Cette année, cette snowbird québécoise de 68 ans a décidé, avec son mari, de passer l'hiver dans ce pays du sud de l'Europe. Une première pour le couple des Laurentides qui avait plutôt l'habitude de se rendre aux États-Unis. Avec tout ce qui se passe depuis la venue de Trump, toutes ses niaiseries au pouvoir et tout ce qu'il fait, on a décidé que les États-Unis, c'est fini pour nous, explique Mme Gervais. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, les événements politiques se bousculent. Les États-Unis ont aussi durci leur contrôle aux frontières avec de potentielles fouilles de téléphone, en plus de pouvoir photographier et prendre les empreintes digitales des snowbirds canadiens. Autant de raisons qui ont poussé le couple à faire une croix sur le pays voisin. Ça ne nous tentait vraiment pas de traverser le pays dans ces conditions-là et d'être dans des États trumpistes comme le Texas ou la Floride. On ne sait pas ce qui peut arriver, c'est très inquiétant, dit la Québécoise. Le couple a alors exploré d'autres options. Comme plusieurs, ils étaient à la recherche d'une destination avec un climat ensoleillé offrant une bonne qualité de vie, des activités et une certaine sécurité. Ils ont finalement arrêté leur choix sur la Costa del Sol, une région du sud de l'Espagne réputée pour ses plus de 300 jours de soleil par an, et qui offre une panoplie d'activités et de paysages. Ici, on se sent vraiment bien, en sécurité. Les gens sont extrêmement gentils, explique Mme Gervais depuis son Airbnb au bord de la mer à Puerto de la Duquesa, où ils sont installés depuis décembre 2025. Ça nous change de la Floride, car ici, c'est la basse saison, alors c'est vraiment tranquille. Le couple y trouve aussi son compte avec le coût de la vie plus bas en Espagne. Aux États-Unis, ça coûte vraiment cher avec l'inflation, beaucoup plus cher qu'ici. Alors, même si on a un taux de change plus élevé, ça vient compenser avec le coût de la vie. Un exode? Ces derniers mois, les messages se multiplient sur les groupes Facebook de Snowbird et de Québécois en Espagne. Des internautes qui s'interrogent sur les meilleurs endroits pour passer l'hiver mettent en commun des recommandations d'activités à faire et de services de santé ou racontent tout simplement leur expérience. Marc Pellerin est l'un d'entre eux. Ce Montréalais vient d'y poster des photos de lui et de ses deux lévriers espagnols au bord de la Méditerranée quelques jours après leur arrivée dans le sud de l'Espagne. Habitué de se rendre aux États-Unis, ce Québécois de 66 ans s'y voyait bien passer l'hiver pour sa première année de retraite. Mais les propos et les actions du président états-unien sont venus changer la donne. L'attitude agressive de Trump envers ses voisins et ses idées d'annexer le Canada et le Groenland, ça m'a refroidi, déclare au Devoir celui qui était concepteur de costumes dans le milieu de la danse et du théâtre. Il souligne aussi que l'attitude du gouvernement Trump envers les artistes et la communauté LGBTQ+, a été un élément qui a pesé dans sa décision. « Je fais partie de ces groupes-là et je n'ai pas envie d'aller dans un pays où mon vécu et mes valeurs sont brimés. Je me dis que, pour qu'il soit élu, il y a quand même 50 % de mes voisins du bas qui ont voté pour lui. » Et il est loin d'être le seul à ne plus vouloir dépenser son argent dans un pays en guerre commerciale avec le Canada. Les retours en voiture des résidents canadiens en provenance des États-Unis ont chuté en moyenne d'un tiers en 2025, comparativement à l'année précédente, selon les données de Statistique Canada. Après discussion avec des amis, Marc Pellerin est venu faire un voyage de repérage en Espagne au printemps dernier, histoire de voir s'il s'y verrait passer plusieurs mois. Le constat a été sans appel. J'aime beaucoup l'Espagne, il y a beaucoup de culture et d'histoire, beaucoup de choses à faire et les gens sont très accueillants, raconte-t-il depuis son appartement situé à 2 minutes de la plage. J'ai déjà plusieurs petits voyages prévus dans le pays pour aller découvrir notamment Grenade et Cordoue. Je prévois aussi de rayonner en Europe. Des différences clés. Même si l'Espagne possède de nombreux atouts pour rivaliser avec la Floride, les conditions de séjour n'en demeurent pas moins différentes. Alors que les snowbirds québécois peuvent séjourner jusqu'à 6 mois par an, 182 jours, sans visa aux États-Unis, ils sont limités à un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours dans l'espace Schengen, qui englobe la plupart des pays européens. D'ailleurs, ces derniers mois, plusieurs pays du vieux continent ont modernisé leur système de contrôle aux frontières afin de notamment mieux surveiller le respect de cette durée maximale de séjour pour les non-européens. Cette limite de 90 jours, c'est ce qui est malheureux avec les pays d'Europe. Sinon, ça nous prend des visas. Mais c'est quand même compliqué à obtenir et ça coûte cher, dit Pauline Gervais. Pour les retraités non-européens qui voudraient rester plus longtemps, le visa de séjour sans activité lucrative est la meilleure option qui s'offre à eux en Espagne, selon l'avocate Margaret Outshield-Ray. Ce visa se demande en amont depuis le Canada au consulat espagnol. Il faut notamment disposer de revenus suffisants, d'une assurance maladie privée espagnole, ou encore d'un casier judiciaire vierge, détail tel au Devoir. Auparavant, il existait aussi le passeport doré, un visa délivré aux investisseurs non-européens lors de l'achat d'un bien immobilier de 500 000 euros minimum, l'équivalent de plus de 800 000 $ canadiens. Très populaire chez les Nord-Américains, ce visa a été suspendu en 2025. De façon générale, les procédures en immigration ne sont pas difficiles, mais peuvent prendre beaucoup de temps et nécessitent beaucoup de papiers, car l'Espagne est un pays très bureaucratique, ajoute Mme Auschild-Ray. Autre différence notable avec les États-Unis, la langue. Même si beaucoup d'Espagnols, surtout dans les régions touristiques, sont en mesure de parler la langue de Shakespeare ou de Molière, cela peut parfois s'avérer plus compliqué hors des sentiers battus. J'ai anticipé en suivant des cours d'espagnol avec la Fédération de l'âge d'or du Québec avant mon voyage. Ce n'est pas parfait, mais ça me donne des outils pour me débrouiller ici, explique Marc Pellerin, qui entend aussi suivre des cours sur place. Pour le couple Gervais, cela n'a pas été un défi jusqu'ici. On essaie d'apprendre des mots en espagnol et quand on ne sait pas, on cherche sur notre téléphone. C'est amusant. Les gens sont très gentils et trouvent ça charmant qu'on essaie d'apprendre, conclut Pauline Gervais, qui a déjà prévu de revenir en 2027, passer l'hiver en Espagne. C'était « Des snowbirds québécois mettent le cap sur l'Espagne », un texte de Romain Chauvet paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir.
Pourquoi je digère mal la recette du conservatisme québécois, un texte de Maxime Boucher, paru le 8 décembre 2025 dans la presse. Maxime Boucher est professeur au Cégep Marie-Victorin, étudiant au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal et du Monde, canadien-français et citoyen du Québec qui s'en vient. Depuis quelque temps, un certain conservatisme identitaire prend une place considérable dans l'espace politique et médiatique québécois. Il se déploie sur plusieurs tribunes, mobilise un sentiment d'urgence et prétend parler au nom d'un « nous » menacé. Plutôt que de m'attarder aux personnalités qu'il incarne, j'aimerais vous présenter cette recette et les raisons pour lesquelles j'ai du mal à la digérer. Premier ingrédient, la victimisation inversée. Ce discours se présente d'abord comme la voix d'un groupe assiégé. On y affirme que nous serions intimidés, effacés, dominés par des forces extérieures, qu'elles soient culturelles, religieuses ou sociales. Cette posture victimaire sert ensuite de justification morale pour adopter des attitudes de fermeture ou d'exclusion. Un simple signe culturel, un vêtement, une pratique, un mot, devient un acte d'intimidation, ce qui permet de réagir comme si une agression avait eu lieu. Si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, l'intimidation peut, elle aussi, être le reflet de nos propres peurs. Cette inversion transforme la défense identitaire en vertu publique. Deuxième ingrédient, le catastrophisme extrapolé. La recette se poursuit par la projection d'un avenir présenté comme une apocalypse culturelle. L'ouverture serait synonyme de déclin. La diversité mènerait à l'effacement. On évoque la disparition d'un peuple, l'effacement d'un sexe, la fin d'une civilisation, comme si accueillir la complexité humaine équivalait à renoncer à soi-même. On présente toujours le pire scénario, femmes chassées de l'espace public, institutions qui s'effondrent sous le poids de la diversité, disparition du français. On s'empêche ainsi de penser d'autres issues, et surtout les moyens de les construire. Par exemple, la capacité d'intégration du Québec n'est pas figée et dépend de nos efforts collectifs. Or, en réduisant la francisation et les programmes d'intégration, tout en attisant les différences, on abaisse ce seuil, on aggrave le problème, puis on exploite les tensions ainsi produites. Le problème n'est pas l'immigration, mais notre désengagement. D'autres chemins sont possibles, plus exigeants, mais plus féconds, ceux où la rencontre se passe bien et où la coexistence enrichit au lieu de détruire. Troisième ingrédient, l'opposition tranchée entre le « nous » et les autres. Ce discours s'appuie ensuite sur une division nette entre des groupes présentés comme naturels, fondateurs, légitimes, et des groupes qu'on dit « autres », même lorsqu'ils vivent ici depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Pourtant, un rappel historique élémentaire fait vaciller cette construction. Nous, les Canadiens français, sommes aussi issus de migrations, de rencontres, de métissages parfois forcés, parfois choisis. De plus, le territoire, celui que recouvre la province du Québec, n'a pas été défini par nous. Il a été dessiné et nommé par les colonisateurs britanniques pour nous intégrer dans leur Commonwealth. Quand certains insistent sur le lien organique entre la nation et le territoire, ils oublient que ce territoire a été pensé d'abord pour nous administrer, pas pour nous émanciper. En érigeant la forteresse du nationalisme identitaire, on finit par s'enfermer dans les limites mêmes que nos anciens maîtres ont tracées pour nous. Quatrième ingrédient, la prétention à dire la vérité contre la novlangue. Enfin, ce discours affirme souvent parler au nom de la vérité brute et du gros bon sens contre ce qu'il présente comme des manipulations idéologiques. On accuse certains groupes de créer une novlangue, comme si seuls les autres produisaient des récits, des catégories et des cadres d'interprétation. Pourtant, toute parole simplifie, sélectionne, transforme. Toute parole, qu'elle soit conservatrice, progressiste, religieuse ou laïque, construit un sens. Le nier, c'est refuser de voir sa propre contribution à la manière dont on habite le réel. Quant à moi, je joue franc jeu et je vous signale mon intention et ma position. Je produis du sens et je vous le communique. Ce n'est pas une vérité, c'est aussi une recette. Certains diront que c'est la recette woke, mais c'est mal me connaître, car je puise mes ingrédients dans une frange de la tradition chrétienne qui mise sur le dialogue et l'accueil. Et on oublie trop souvent que le christianisme social traverse notre histoire depuis bien avant que « woke » devienne une étiquette commode pour disqualifier toute réflexion critique. Mes ingrédients, c'est s'autoriser à choisir ses appartenances sans en faire des forteresses, accueillir des récits nouveaux sans y voir des effacements, reconnaître la diversité humaine sans l'opposer à notre propre continuité. Enfin, apprendre à réfléchir ensemble en se recentrant et en se décentrant de soi pour mieux poser nos problèmes et y répondre. Pour inventer demain, il faut d'abord croire au présent. Vigneault chantait que l'amour et la haine sont ses enfants et ses chaînes. À nous de choisir nos chaînes. L'amour ouvre, accueille, relie. La haine nous enferme. Et elle est collectivement une très mauvaise conseillère. C'était « Pourquoi je digère mal la recette du conservatisme québécois », un texte de Maxime Boucher, paru le 8 décembre 2025 dans La Presse.
Les réservoirs d'Hydro-Québec encore au point creux. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir. Hydro-Québec s'apprête à affronter le cœur de l'hiver avec des réservoirs hydroélectriques bien moins remplis qu'à l'habitude. L'automne 2025, chaud et sec, n'aura pas permis de refaire le plein d'eau, comme la Société d'État le prévoyait à la fin août 2025. Selon la plus récente prévision d'Hydro-Québec, réalisée le 30 novembre, les réservoirs allaient contenir, le 1er janvier 2026, assez d'eau pour produire 89,6 TWh d'énergie. Jamais les réservoirs n'ont été à un si faible niveau à ce moment critique de l'année depuis 2005. La différence par rapport au 1er janvier de l'an dernier s'annonce cependant marginale. En moyenne, ces 20 dernières années, les réservoirs québécois contiennent début janvier assez d'eau pour générer 118 TWh, soit l'équivalent des deux tiers de la demande annuelle du Québec. Une faible hydraulicité. Depuis 2023, les apports en eau dans les réservoirs québécois sont sous la moyenne en raison d'une météo défavorable. Cette faible hydraulicité a forcé Hydro-Québec à piger dans ses réserves multiannuelles d'énergie et à réduire ses exportations. Malgré ces trois années de faible hydraulicité, Hydro-Québec est tout à fait en mesure de répondre à ses engagements en matière de fiabilité énergétique et de répondre aux besoins de sa clientèle, affirme la Société d'État dans un courriel au Devoir. Hydro-Québec n'était toutefois pas en mesure de préciser le niveau réel de remplissage de ses réservoirs au 1er janvier. La prochaine évaluation du stock énergétique sera déposée en mai à la Régie de l'énergie. Étant donné que l'essentiel des précipitations tombera pour le reste de la saison sous forme de neige, les réservoirs n'auront pas beaucoup de nouvelle eau avant le printemps. L'hiver est évidemment la saison où la demande en électricité est la plus forte. Tout au long de 2025, Hydro-Québec a tâché de faire remonter le niveau de ses réservoirs. Dans les trois premiers trimestres de l'année, elle a importé plus d'électricité, 10 TWh à 5 sous kWh, qu'elle n'en a exporté, 8 TWh à 15 sous kWh. Tirant avantage des variations de prix, elle a tout de même généré un profit net avec ses transactions. Pour les réservoirs, le véritable retour à la normale dépend toutefois des conditions météorologiques. Faisant l'hypothèse d'un automne normal, Hydro-Québec prévoyait le 31 août dernier que ses réservoirs remonteraient à 105 TWh au 1er janvier 2026. Un mois de septembre sec. Or, le début de l'automne a été marqué par des conditions de sécheresse. Septembre a été particulièrement sec. À bien des endroits au Québec, des records de faibles pluies ont été enregistrés. Et l'automne 2025 a été le troisième plus chaud jamais enregistré dans la province. Depuis des décennies, des séquences de faible et de forte hydraulicité s'enchaînent au Québec. La disette actuelle fait suite à la manne des années 2014-2020, quand l'eau était abondante et qu'Hydro-Québec exportait souvent plus de 30 TWh par an. Heureusement, les spécialistes ne s'attendent pas à ce que les changements climatiques réduisent les apports en eau dans les réservoirs hydroélectriques du Québec. Au contraire, ils prévoient plutôt une petite augmentation de ces apports, en moyenne. Les signaux qu'on a des modèles, c'est qu'on devrait avoir plus d'eau dans le nord, plus de chutes de neige, mais aussi plus d'extrêmes, disait Daniel Nadeau, professeur de génie à l'Université Laval, et spécialiste de l'hydrologie des régions froides, en entrevue au Devoir en septembre. Pour traverser l'hiver sans trop amputer ses réserves d'eau, Hydro-Québec devra espérer des températures clémentes et une vigoureuse production éolienne. Le jeu des importations et des exportations sera aussi crucial. Rappelons que le contrat avec le Massachusetts pour la vente de 9,45 TWh par année entrait en vigueur à la fin 2025. Les exportations doivent d'ailleurs commencer en janvier 2026. Le contrat avec New York pour la vente de 10,4 TWh par année débutera en décembre 2026. C'était Les réservoirs d'Hydro-Québec encore au point creux. Un texte d'Alexis Riopel paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir.